La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père, en Jésus, le Christ, notre frère. Bienvenue à tous ici dans ce dimanche un peu particulier, puisque c'est le dimanche de l'éducation biblique pour notre communauté. Vous êtes tous ici les bienvenus dans ce lieu de prière, et particulièrement ce matin les enfants qui sont ici avec nous et qui vont partager ce temps de culte. Comme les enfants sont là, il y aura des petits bouleversements autour de la prédication. Ne vous inquiétez pas, rien de grave, pas de séisme. Simplement, pour que la pédagogie soit plus efficace et que le temps leur paraisse plus fourni en réflexion, nous avons décidé de faire suivre directement le texte biblique de la prédication pour ne pas que les enfants soient perdus et oublient le texte biblique qui a été lu. Je pense que parfois, même pour les adultes, c'est pas mal d'avoir encore bien dans l'oreille le texte biblique. Hein, ça ne nuit pas. Voilà. Donc il y aura juste ce petit changement aujourd'hui. Je tenais aussi à vous souhaiter tous mes vœux pour cette nouvelle année, sans superstition aucune, mais plutôt en forme de bénédiction pour chacun. Que votre année soit belle et douce et qu'elle vous apporte tout le bonheur, un bonheur dont nous allons parler particulièrement aujourd'hui avec les béatitudes de l'évangile de Matthieu. Je vous invite à commencer ce temps de louange et de culte par le spontané, le psaume 8. Je vais inviter Joachim à nous lire la louange d'aujourd'hui, qui est une louange écrite à partir du psaume 66. Joachim. Voilà. Est-ce que ça va aller comme ça? Tu commences ici à clamer Dieu. Tu continues.
Si c'est trop long, je prends la suite. Acclamez Dieu, toute la terre. Fêtez la gloire de son nom. Glorifiez-le en célébrant sa louange. Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits formidables pour les hommes et cette joie qu'il nous donne. Peuple, bénissez Dieu. Faites retentir sa louange, car il rend la vie à notre âme et garde nos pieds de la chute. Je viens vers toi avec ce que j'ai, ce que je suis. Je veux tenir mes promesses envers toi, les promesses qui m'ouvrirent les lèvres, que ma bouche a prononcé dans ma détresse. Venez, écoutez tous qui cherchaient Dieu, je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Quand je poussais vers lui mon cri, ma bouche faisait déjà son éloge. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté sa prière, ni détourné de moi son amour.
Et nous chantons notre louange avec le psaume 92, les strophes 1, 2 et 3. 92, et nous le prenons dans le psautier. Je vous invite à vous asseoir. Écoutons ce que le Seigneur nous donne pour notre vie, pour nous guider dans notre vie. Dans l'évangile de Matthieu, vous entendez les enfants, c'est le même évangile que celui que nous allons lire tout à l'heure. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, il est écrit « C'est vous qui êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, avec quoi le salera-t-on? Il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. » Alors les enfants, ce que Dieu nous demande, c'est d'être le sel de la terre. C'est étrange, non? Est-ce qu'on peut être du sel? Et pourtant, c'est ce qui donne le goût à la vie. Le Seigneur nous demande d'être sans cesse dans cette vigilance pour sa parole et d'être sans cesse dans ce goût de la vie. Je vous invite à chanter ensemble le psaume 72, « À toi, mon Dieu, mon cœur monte ». Nous nous présentons à Dieu maintenant tel que nous sommes. Seigneur, nous te demandons ton pardon pour tout ce que nous n'arrivons pas à faire selon ta volonté, tous les moments où nous sommes fades, tous les moments où nous n'avons plus le goût à rien, tous les moments où la vie que tu nous donnes semble ne plus avoir de goût, de saveur. Seigneur, pardonne cette fadeur de vie. Nous te demandons, Seigneur, ton pardon pour tous les moments où nous ne pouvons pas être enthousiastes et où nous ne retrouvons pas la joie que tu nous donnes. Ouvre nos yeux, Seigneur. Permets que nous puissions voir les merveilles de la vie que tu donnes. Donne-nous, Seigneur, des cœurs ouverts à ta parole. Pardonne tous ces moments où nous faisons de ta vie une tristesse, alors qu'elle est pour nous louange. Amen. Chaque fois que nous avons le sentiment d'échouer, de ne pas être conformes à ce que Dieu nous demande, le Seigneur redit sa grâce. Il redit toujours que nous sommes pardonnés, que nous pouvons repartir à zéro avec lui. Et dans la première lettre de Jean, il nous dit en substance ceci. Voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Il a envoyé son Fils dans le monde afin que nous ayons la vie par lui. Voilà ce que dit la première lettre de Jean. Et cet amour de Dieu consiste en ceci. Non pas que c'est nous qui ayons aimé Dieu en premier, mais c'est lui qui nous a aimés le premier. Il a envoyé son Fils pour être le sauveur du monde. Dieu est amour. Que cette parole nous accompagne et nous encourage à repartir à nouveau dans la confiance avec Dieu. nous nous levons tous, voilà, pour confesser ensemble notre foi. Je crois en un seul Dieu, notre Père, qui a pour chacun des projets de vie et de joie. Je crois en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre frère. Il a pour vocation de nous apporter le salut. Je crois en l'Esprit Saint qui nous est offert. Il appelle notre foi et fonde l'espérance véritable. Je crois que par l'amour, la vie touche à la vie éternelle et qu'en Dieu, nous demeurons éternellement dans la liberté et dans la joie. Amen. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Et je vous invite à vous asseoir pour entendre la louange, l'Alléluia du chœur de l'Oratoire du Louvre qui est avec nous ici aujourd'hui. Nous prions ensemble. Seigneur, éclaire-nous au moment où nous allons parler des témoignages anciens, commenter une écriture qui n'est pas la nôtre, entendre une voix qui est la tienne. Permets, Seigneur, que ceux qui ont confessé leur foi avant nous rejoignent notre propre confession de foi, que nos doutes, la vérité de nos questions, se retrouvent dans la vérité de leurs propres questions. Permets que ta parole, véhiculée par les textes bibliques, rejoigne notre vie aujourd'hui. Amen. Alors les enfants, ce matin, on va parler d'un thème qui doit forcément vous réjouir, c'est le thème du bonheur. À quoi on reconnaît, d'après vous, quelqu'un qui est très heureux? Quels signes font qu'on repère quelqu'un qui est très heureux? Vous n'avez aucun signe du bonheur sur personne, Joachim? Ah oui, ah voilà, oui. À quoi on reconnaît quelqu'un qui est heureux?
Parce qu'il a un sourire.
Parce qu'il a un sourire, oui, souvent, hein, souvent, c'est vrai. Et d'autres propositions, à part le sourire?
Parce qu'il a des yeux heureux.
Des yeux heureux, il y a un regard aussi qui est particulier, oui. Alors déjà, on a un beau visage avec tout ça. Hein. Non? Bon. Alors, est-ce qu'on est, on peut être heureux tout le temps, sans interruption, d'après vous? Est-ce que c'est possible, ça? Non. Vous pensez que non? Il y a des moments, forcément, où on est moins heureux, non? Joachim, qu'est-ce que tu en penses?
Moi, je pense que c'est pas possible d'être tout le temps heureux.
D'être tout le temps heureux, bon. Et alors, pourquoi tu disais non? Il y a le petit garçon là qui disait... Alors, je connais pas encore les prénoms de tous vos enfants, je suis désolée. Hector, voilà. Alors, pourquoi on peut pas toujours être heureux? Qu'est-ce qui peut faire que ça s'arrête?
Bah, parce que des fois, on peut être en colère ou triste.
Oui. Il y a des épreuves dans une vie. Et parfois, on se trouve face à des épreuves où tout d'un coup, le sourire s'en va. Et les yeux heureux aussi ne sont plus tout à fait heureux. Alors, est-ce que c'est possible, d'après vous? Une autre question qui va résonner dans le texte qu'on va entendre aujourd'hui. Que les règles qu'on vous donne pour vivre, quand vos parents vous disent « tu fais ceci mais pas cela »,« tu as le droit de faire ça mais pas ça », quand à l'école on vous dit « tu ne fais pas ça dans la cour de récréation, c'est interdit », quand on vous dit « vous devez être à l'heure, vous devez respecter des règles », toutes ces règles-là, est-ce que vous pensez que ça peut rendre heureux?
Sur le moment, non, mais plus tard, ça pourrait nous servir.
Ah, intéressant, ça pourrait servir cette affaire-là. Il faut être un petit peu utilitariste, hein, vous avez remarqué? Parce que pour le bonheur, en effet, il y a des calculs à faire. Qu'est-ce que ça peut faire alors, les fameuses règles-là? Est-ce que vraiment c'est quelque chose qui empêche complètement d'être heureux?
Non.
Pourquoi alors?
Parce que c'est pour être heureux.
C'est pour être heureux? Tu penses ça vraiment?
Oui.
Très intéressant. Alors je ne sais pas si je vais prêcher ce matin, parce que j'ai l'impression qu'ils ont déjà tous reçu une parole bien construite et que c'est peut-être à eux de nous prêcher la parole de temps en temps. Alors, si on voulait dessiner le bonheur, qu'est-ce qu'on dessinerait? Là, je vais vous laisser la question ouverte. Vous avez un livret qu'on vous a donné et on va entendre Sarah Kim, qui est notre organiste. C'est elle qui va jouer maintenant pour nous. Et pendant ce temps-là, vous allez essayer de dessiner dans le cadre qui est en haut du livret, là, tout en haut, vous allez essayer de dessiner une image possible du bonheur. Je vous laisse faire. Merci, Sarah. Alors vous allez pouvoir continuer votre dessin pendant que vous écoutez tout ça. En revanche, maintenant je vais vous lire un texte qui se trouve dans l'évangile de Matthieu. On a appelé ce texte les béatitudes. Alors moi je suis très contente parce que c'est presque Béatrice. Alors je suis vraiment très très heureuse d'avoir ce prénom-là. Et alors ces béatitudes sont dans un texte qui a d'abord été écrit, pas en français, mais dans la langue grecque. Et alors dans ce texte écrit d'abord en grec, on dit heureux, mais on le dit par un mot qui est en grec makarioi. Alors sur votre livret, vous avez le mot grec qui est écrit au début, là, j'ai mis en grand, un mot qui est makarioi. Ça se lit comme ça, donc vous avez déjà, vous voyez à votre âge, vous allez déjà lire du grec. Et si vous avez envie de recopier ce texte-là, pour ce petit mot-là, pour apprendre à écrire grec, vous pouvez tout à fait le faire. C'est une sorte de proclamation que Jésus va faire devant ses disciples en voyant plein de gens qui se sont attroupés pour écouter ce qu'il a à dire. Il va dire devant tous ces gens « makarioi », heureux. Alors, je vais maintenant vous laisser écouter le texte de l'Évangile. Voyant les foules, Jésus monta sur la montagne, il s'assit et ses disciples vinrent à lui. Puis il prit la parole et se mit à les instruire. Alors voilà comment il les instruit. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui sont compatissants, car ils obtiendront compassion. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous lorsqu'on vous insulte, qu'on vous persécute et qu'on répand faussement sur vous toutes sortes de méchancetés à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez transportés d'allégresse, parce que votre récompense est grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. C'est quand même étrange de dire « Heureux êtes-vous lorsqu'on vous insulte, qu'on vous persécute, qu'on répand faussement toutes sortes de choses contre vous à cause de moi. » C'est un peu bizarre. Comment on peut être heureux quand on pleure? Pourtant, Jésus n'hésite pas une minute et il commence son discours par un poème où tout ce qui rend les hommes malheureux d'habitude, ici les rend heureux. Être pauvre, pleurer, avoir faim et soif de justice, être persécuté. Voilà les choses qui ne rendent pas vraiment heureux, et pourtant, Jésus affirme à chaque phrase de son poème que toutes ces choses peuvent devenir l'occasion d'une grande joie. Alors nous allons essayer de découvrir pourquoi. L'Évangile nous dit qu'avant de prononcer ce grand poème, Jésus voit des foules. On ignore de quelle foule on parle ici, et c'est bien sûr le principe même de la foule. Il a recruté ses premiers disciples et le voilà confronté à ces foules de gens qui vont le suivre et le rencontrer pour écouter son enseignement. Alors quelles sont ces foules? Par définition, une foule ne se laisse pas identifier. Vous savez, quand on dit il y a une foule de gens, il est impossible de savoir qui sont ces gens individuellement. On parle de la foule quand il y a tellement de monde qu'il est vraiment impossible d'y reconnaître une personne en particulier. Et c'est en voyant ces foules de gens qui lui sont inconnus que Jésus prend la décision, non pas d'aller se noyer dans la foule, mais de monter où ? Sur une montagne. Il gravit la montagne et il va enseigner d'abord ses disciples. On ne dit pas que Jésus parle à tous les gens qui sont là dans la foule, on ne dit pas qu'il s'en va loin d'eux non plus, il ne cherche pas à les fuir cette fois-ci. On dit seulement qu'il décide de s'installer sur une montagne pour parler à ses disciples. Peut-être parce qu'il tient à former ses disciples pour que eux-mêmes puissent être capables de parler ensuite aux foules. C'est-à-dire que il est en train de faire en fait la formation de ceux qui feront à sa suite ce que lui-même a fait. Peut-être aussi qu'il veut confier à ses disciples seulement et seulement à eux une vérité qui puisse les encourager, les rendre plus confiants et donc les rendre capables d'être sages comme lui. Dans l'évangile de Matthieu, on parle beaucoup des disciples, plus que dans les autres évangiles. Alors qu'est-ce que c'est qu'un disciple ? Au temps de Jésus, un disciple est une personne qui suit les enseignements d'un sage, tout simplement. C'est quelqu'un qui a toute confiance dans son maître et qui pense qu'en écoutant ses conseils et ses récits, sa vie sera meilleure. Jésus a été le maître de beaucoup de disciples. Et certains ici portent d'ailleurs des prénoms qui sont des prénoms de disciples. Il y a eu d'abord les apôtres, mais aussi des femmes qui étaient présentes quand il parlait, et encore beaucoup d'autres personnes dont les évangiles ne nous disent pas le nom, mais qui ont été aussi des disciples de Jésus parce qu'ils l'ont suivi. Alors je dis suivi parce qu'à cette époque-là, on ne va pas à l'école du maître comme ça au même endroit tous les jours, mais on suit le maître de maison en maison, de lieu de culte en place publique, et on le suit pendant qu'il donne ses enseignements un peu partout, dans les villes, dans les villages. Et Jésus a beaucoup, beaucoup marché. Et les disciples derrière lui aussi. Ces maîtres, qui sont considérés comme des sages, enseignent et font des discours, et ils racontent des tas de récits. Et tous ceux qui veulent bien les écouter peuvent venir librement, comme ça, les écouter, venir autour d'eux et écouter ce qu'ils disent. Alors ceux qui veulent connaître toute la sagesse d'un de ses maîtres sont obligés de suivre le maître un peu partout. L'évangile raconte que Jésus monte sur une montagne et ce geste a beaucoup de sens pour comprendre quel est ce texte des Béatitudes, ce poème qui va être prononcé. Parce qu'il y a un autre homme très important dans la Bible qui a d'abord gravi une montagne pour faire quelque chose d'important. Cet homme, ce personnage, c'est Moïse. Et Moïse, lui aussi, était monté sur une montagne pour recevoir quelque chose d'extrêmement important pour le peuple de Jésus, le peuple d'Israël, la loi. Moïse est monté sur une montagne et là, il a eu l'inspiration divine et il a reçu la loi de Dieu. Et cette loi-là était faite pour que le peuple ne se perde pas, c'est-à-dire pour que le peuple ait des règles de vie, comme vous disiez tout à l'heure, pour qu'ils ne fassent pas n'importe quoi et que peut-être un jour ils soient heureux et libres. En allant sur la montagne, Jésus refait ce que le grand prophète Moïse a fait avant lui. Mais là, il ne va pas recevoir une nouvelle loi de Dieu, c'est toujours la même. Il va plutôt lui-même en donner une nouvelle lecture, une nouvelle compréhension pour les disciples qui le suivent. Il va raconter à ses disciples comment il faut lire la loi de Moïse. Depuis Moïse, évidemment, beaucoup de choses ont changé pour le peuple de Jésus. Mais c'est toujours la loi de Moïse qui est la règle pour les croyants, qui sont comme Jésus, des Juifs, qui reconnaissent le Dieu d'Israël comme leur Dieu. Si nous, aujourd'hui, dans notre pays, nous séparons les lois de notre État, l'État français a des lois, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut n'importe comment, il faut observer ces lois-là, et on sépare évidemment ces lois des commandements de Dieu que nous entendons par exemple à l'église ou à la maison quand on lit la Bible. Au temps de Jésus, il se passe un peu la même chose parce qu'il y a deux lois qui s'affrontent. En effet, la Palestine est occupée par les Romains et les Romains imposent des règles qui sont édictées par l'empereur. Et la vie du peuple de Jésus est une vie difficile parce que le peuple de Jésus a des lois religieuses qui ne correspondent pas tout à fait à ce que l'Empire romain veut. Jésus et les autres croyants de sa religion juive se retrouvent entre deux règlements, celui des Romains et celui de Moïse. Et parfois les deux règlements ne sont pas très faciles à vivre en même temps. Il y a des contradictions. Par exemple, selon la loi reçue par Moïse, on ne doit pas adorer un autre Dieu que le Dieu de Moïse, le Dieu d'Israël. Pour les Romains, en revanche, il faut absolument adorer qui ? Un homme qui est élevé au rang de divin, de Dieu, c'est l'empereur. Alors évidemment, ça pose problème aux croyants du Dieu d'Israël. Ils n'ont pas du tout envie d'adorer autre chose que Dieu. Au temps de Jésus, cette division entre les deux systèmes rendait déjà les gens très malheureux, car ils ne pouvaient pas vivre selon la loi de leur peuple, mais selon une loi imposée par un autre peuple qui en plus s'était installé chez eux. Au temps où on a écrit les évangiles, un peu plus tard, après la mort de Jésus, les choses étaient devenues encore plus compliquées. Jésus était mort sur la croix, et les Juifs qui étaient déjà en difficulté avec l'Empire romain à cause des lois et de la restriction de leur liberté, étaient aussi hostiles à la nouvelle religion qui venait de naître, qui était le christianisme. Ce qui fait que les chrétiens, après la mort de Jésus, se sont trouvés avec deux adversaires, d'un côté l'Empire romain, de l'autre côté ceux qui n'avaient pas voulu reconnaître Jésus comme le Messie et qui étaient restés dans la religion juive d'avant. Alors évidemment, ça faisait beaucoup d'ennemis et beaucoup d'obstacles. Les chrétiens se retrouvaient donc confrontés à des ennemis de toutes parts. Ils étaient souvent chassés des synagogues, les lieux où on priait Dieu. Ils n'avaient nul endroit pour prier et ils étaient persécutés par les Romains, qui leur reprochaient de ne pas reconnaître l'empereur comme une divinité. Arrêtés, parfois torturés, parfois tués, ils étaient souvent découragés par leur propre situation. On imagine bien. Comment continuer à croire qu'on est dans la bonne voie quand on est minoritaire, quand on n'a pas de force pour se défendre parce qu'ils n'avaient pas d'armée, et que les frères autour et les sœurs autour meurent les uns après les autres à cause de lois qui ne s'entendent pas? C'est difficile de tenir bon dans cette obéissance, des règles qui font prendre des gros risques. C'est arrivé à toutes les époques, les enfants. Vous avez entendu parler des temps de guerre en France, où il a fallu faire le choix de décider dans quel camp on allait se mettre. Est-ce qu'on allait passer dans la résistance et résister à l'occupant qui était venu faire la guerre chez nous? Ou bien est-ce qu'on allait dire tant pis, c'est trop dur, je laisse. Et je fais comme si c'était la loi de celui qui est venu occuper mon pays qui avait raison. Ça a été très difficile pour beaucoup. Et le choix n'est pas simple. Et nous ne pouvons pas juger ceux qui ont fait de tels choix. Car nous ne savons jamais ce que nous-mêmes nous aurions fait à leur place. Jésus adresse donc ses paroles d'encouragement quand il dit « Heureux êtes-vous » à des gens qui sont en grande difficulté. À son époque, ce sont des gens opprimés par les Romains à cause de questions religieuses, mais aussi à cause de questions économiques et sociales. Il y avait des impôts absolument terribles qui étaient beaucoup trop lourds pour la population très pauvre. Il parle à des gens qui pleurent, des gens qui veulent que la justice entre les hommes existe, des gens qui sont persécutés. Mais à l'époque où Matthieu écrit son évangile, donc bien plus tard, après la mort de Jésus, ce sont des chrétiens qui sont persécutés aussi, de façon un peu différente, mais pour leur religion. Et de plus, la guerre entre les Juifs et les Romains a éclaté juste avant, environ en 66, exactement, en 66, jusqu'en 70, il y a la guerre sur ce territoire-là. Alors vous savez qu'en temps de guerre, là, les gens s'appauvrissent beaucoup, perdent beaucoup de proches, il y a beaucoup de veuves, beaucoup d'orphelins, et donc la vie est très difficile. Cela nous donne tout le contexte de ce texte qui nous dit « Heureux êtes-vous ». Et en fait, on comprend mieux pourquoi Jésus raconte à ses disciples qu'ils sont heureux malgré tout. « Makarioi », il leur dit « Makarioi, heureux, bienheureux êtes-vous. » Alors ce terme en langue grecque a été traduit de diverses façons. C'est difficile à traduire en fait dans la langue française. Certains auteurs, comme André Chouraki, que beaucoup connaissent ici j'imagine, vont même jusqu'à prendre derrière la langue grecque la langue des Hébreux pour retrouver la racine de ce mot makarioi. Et il traduit « en marche ». Alors aujourd'hui, ce serait assez étrange et malvenu de lire les béatitudes ainsi, en parlant toujours avec En marche, en commençant chaque verset. D'autres auteurs ont traduit par bienheureux et non pas seulement heureux, ce qui sous-entend une tradition du martyr, de témoignage chrétien rendu au risque de sa vie. Mais là encore, cela pose des problèmes parce que on a l'impression que c'est bien de souffrir, vous voyez. L'auteur grec Xénophon a traduit le bienheureux. Et pour lui, c'est celui qui a reçu de bonnes choses, c'est-à-dire qui a une bonne fortune, qui a de la chance, en quelque sorte. C'est quelqu'un qui est riche de ce qu'il a reçu. Ce n'est pas quelqu'un qui fabrique son bonheur, mais c'est quelqu'un qui le reçoit. Le chanceux, le fortuné. Surtout si l'on se souvient que la fortune, quand on parle d'avoir une fortune, une grosse fortune aujourd'hui, ça n'a pas toujours été compris comme ça. Ça voulait dire d'abord être chanceux et non pas être très riche d'argent. C'est donc un signe de prospérité pour Xénophon. D'autres se contentent du terme heureux, tout simplement, et ce qui fait penser au bonheur quotidien, au bonheur de tous, qu'ils soient croyants ou non. Et dans le texte, ce n'est pas vraiment le sens non plus, parce qu'il n'est pas question de bien-être, il n'est pas question de vie calme, de vie zen, comme on dirait aujourd'hui, de vie douce et joyeuse. Jésus décrit des situations un peu dures. Une proposition de traduction a retenu mon attention en lisant un livre d'André Mire, qui est un grand théologien à Montréal. J'ai vu qu'il avait traduit « choyer ». Vous savez ce que ça veut dire « choyer quelqu'un » ? Ça veut dire prendre soin et lui offrir tout ce dont il a besoin. C'est ce que font vos parents pour vous tous les jours. Je suis sûre que chez vous, vous êtes choyés. Alors André Mire a traduit ce heureux, ce makarioi, par choyer. C'est une belle proposition qui a le mérite de prendre en compte la partie reçue de ce bonheur, des béatitudes, et en même temps qui donne immédiatement à penser ce rapport de filiation entre Dieu le Père et son Fils Jésus, et tous les enfants de Dieu que nous sommes nous tous, quand nous sommes croyants dans ce Dieu-là. Ainsi, il y a cette relation de confiance. Et on a ici l'idée d'un parent qui prend soin de ses enfants et qui leur procure tout ce dont ils ont besoin simplement par amour. Choyez ceux qui pleurent. Vous êtes choyés, vous tous qui pleurez. Quelle que soit la traduction que l'on choisit, le paradoxe demeure quand même. En quoi le fait d'être victime de la persécution pourrait-il être un bonheur, une bonne fortune, un gain, une richesse ? Peut-être ne faut-il pas chercher du côté des effets du malheur, mais du côté des causes de ces malheurs. C'est pour la justice qu'on a faim et soif. Dans les béatitudes, c'est pour le nom de Jésus-Christ que l'on est insulté, calomnié et persécuté. Ce n'est pas en vain, ce n'est pas par goût de la misère et des tracas. Il est même question d'une récompense dans le ciel. Le régime de Dieu, comme André Mire traduit le terme qui est souvent traduit par règne de Dieu, lui, il appelle ça un régime nouveau. Ce régime de Dieu montre qu'il n'est pas le plus important d'être dans un bien-être à tout prix, mais plutôt que ce bonheur, c'est le prix de notre liberté, que ces épreuves que nous traversons, c'est le prix de notre vie, dans le sens profond que Dieu lui donne. En continuant à croire au Dieu de Jésus, au Dieu que Jésus leur avait présenté, au Dieu qui l'avait inspiré, cet homme incroyable, les chrétiens vivaient d'une espérance dans un régime de vie où le mal, la violence, l'injustice, l'iniquité n'étaient plus des fatalités, mais des occasions de témoigner de son attachement à une parole. Même la mort était dépassé avec l'idée de la résurrection. Tout était transformé. Si la cause était bonne, elle valait bien qu'on endure quelques désagréments. Et c'est ce sentiment d'être engagé dans une cause juste qui devait motiver, encourager ceux à qui s'adressait Jésus. Avec ce poème, Jésus donne à ses disciples la conscience que les obstacles ou les ennemis qu'ils rencontrent sont révélateurs du fait qu'ils sont dans la voie des enfants de Dieu. Ils font les œuvres de Dieu, rien ne saurait leur manquer. Ils n'ont plus rien à craindre. Ce texte d'encouragement précède tout un discours dans lequel Jésus va dépasser les règles religieuses anciennes pour les déplacer dans un esprit d'authenticité devant Dieu. Il place l'homme croyant dans une cohérence entre sa foi et ses actes. Si on dit au temple « aimez-vous les uns les autres » et qu'en sortant on dit toutes sortes de mal de tel ou tel, est-ce qu'on est cohérent ? Pas tellement, hein. Si on dit qu'il faut faire le bien et que soi-même on se met à faire tout le mal possible, est-ce qu'on peut vivre dans une vraie cohérence ? Pas vraiment. Jésus va citer un peu plus loin dans des antithèses, donc c'est-à-dire il met en balance toujours deux choses. Vous avez entendu œil pour œil, dent pour dent, donc la loi du talion. On m'a fait mal, je fais mal de la même façon. Eh bien moi je vous dis, dit Jésus, aimez vos ennemis. Donc il va dépasser complètement la question de ce rapport aux autres qui peut être simplement un arrangement pour être simplement bien avec sa conscience. Non seulement il ne faut pas tirer à bon compte, s'en tirer à bon compte avec une stricte égalité de traitement, mais il faut considérer l'ennemi comme un frère, en le replaçant dans l'amour de Dieu, ce qui est quand même pas très facile. On comprend mieux le premier verset des Béatitudes. Heureux les pauvres en esprit. Traduit aussi de multiples façons, ce verset évoque la pauvreté, le souffle ou encore l'esprit, mais d'une seule pièce, c'est-à-dire quelque chose qui est fait d'une seule pièce, qui n'est pas divisé, qui n'est pas de multiples façons. Un élément simple, on dirait en chimie. Heureux celui qui n'est pas double, qui n'est pas dans la duplicité, mais qui est en cohérence entre ce qu'il déclare et ce qu'il fait, ce qu'il croit et ce qu'il accomplit. Voilà les pauvres d'esprit, les simples d'esprit, parfois on a dit. On n'ose plus dire ça parce qu'on a toujours l'impression qu'on dit quelque chose de méchant. Nous savons tous que ce n'est pas facile de faire ce qui est juste. Alors le faire avec l'âme d'un enfant de Dieu, c'est encore plus difficile sans doute. Ce que Jésus demande à ses disciples, c'est ni plus ni moins de renoncer à la ruse du péché qui nous abuse nous-mêmes. Et alors pour conclure ce grand discours qu'il va prononcer installé sur cette montagne avec ses disciples, Jésus va raconter une petite histoire, comme il en a le secret très souvent, et il va raconter cette histoire-là. Quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique sera comme un homme avisé qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont précipités sur cette maison. Elle n'est pas tombée, car elle est fondée sur le rocher. Mais quiconque entend mes paroles et ne les met pas en pratique sera comme un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison, et là elle est tombée, et sa chute a été grande. Jésus compare deux façons de construire notre maison pour nous montrer comment il faut construire notre vie. En concluant par cette histoire, il montre à ses disciples combien solide peut être un enseignement. Ils sont invités à ancrer, à attacher très fortement leur propre comportement dans l'enseignement de Jésus. Ainsi, quel que soit le malheur qui s'abattra sur eux, s'ils ont fondé leur vie sur la parole de justice que Dieu leur donne et que Jésus a vécu vraiment, alors ils ne s'écrouleront pas. Même si l'enseignement de Jésus est exemplaire de droiture, il est difficile d'imaginer que ce chemin de vie si exigeant, cette cohérence si difficile à atteindre, soit à notre portée. Pourtant, Jésus nous encourage avec les béatitudes. Ce que Jésus demande, c'est que nous vivions selon le régime qui n'est pas celui des penchants habituels de l'homme, l'égoïsme, l'arrogance, la violence, l'hypocrisie, ce dont nous voyons l'exemple chaque jour autour de nous, mais aussi en nous. Mais peut-être que là aussi, il faut inverser notre point de vue. Ce n'est pas parce qu'on souffre que l'on se découvre makarioi, choyé de Dieu, mais c'est parce que nous avons accepté l'appel de Dieu. Il ne s'agit pas d'aimer la douleur pour elle-même, ce n'est pas un texte doloriste, comme une valeur, comme quelque chose qui serait bon, mais simplement reconnaître dans ce chemin de vie les inévitables signes de notre choix de vie. Laissons Dieu travailler en nous, et nous aussi nous serons appelés makarioi. Amen. Alors les enfants, maintenant que vous savez ce que c'est que le bonheur dans le régime de Dieu, vous allez pouvoir chanter ensemble le cantique 222 dans les louanges et prières, dans les petits livres bleus. 222.
Thank you.
Voilà, je vous invite à vous asseoir. Nous allons maintenant partager quelques annonces. Et je vais d'abord laisser la parole aux scouts qui sont avec nous aujourd'hui et qui vont donc, qui organisent une vente de gâteaux.
Bonjour, je suis la chef-taine de la patrouille du clan des Goélands à l'oratoire et on vend des gâteaux devant le temple pour financer notre camp d'été. Donc si vous auriez l'amabilité de passer jeter un coup d'œil, on en serait ravis.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce culte d'éducation biblique, ce culte un peu participatif qui a dû faire le bonheur des enfants. Et on remercie Béatrice Cléormazir, notre pasteur, de cette belle prédication, ainsi que Sarah Kim à l'accompagnement à l'orgue et le chœur de l'oratoire dirigé par Fabien Aubé. Quelques annonces, alors, puisque le dessert est prévu à la sortie. Quelques annonces pour cette semaine. Demain, c'est la réunion du groupe des artistes protestants. Il y aura une présentation de Jean Ratz, qui est guitariste classique et peintre, animé par Jean-Marcel Lèbre. Ça se passe de midi à 13h30 et c'est précédé d'un culte. Et la présentation est salle Verne. Le soir, c'est grec biblique pour progressant avec Aurore Mérieux, salle Roberti, de 19h30 à 21h. Mardi, c'est le partage biblique avec Béatrice Cléromazir. Vous savez, c'est un échange qui, cette année, a pour thème les grandes figures féminines de la Bible. C'est de 14h30 à 16h, salle Mono. Mercredi, vous avez le grec biblique pour avancer, qui est de 14h30 à 16h30, salle Verne, et c'est Edith Lounès qui en assure l'animation. Le soir, Fabien Aubé fait une répétition du chœur de l'oratoire de 19h à 22h dans le temple. Alors, jeudi, c'est une grande date, le 17 janvier, c'est le concert exceptionnel du chœur de l'oratoire. C'est un concert mis en scène, avec des œuvres de Gounod et de Purcell, notamment un extrait de Didon Aîné et de Galia, avec un accompagnement musical de Alexandre Korovitch, notre organiste suppléant, à la fois au piano et à l'orgue, et une soprane, Marie Prébost, de très très haute qualité. Je vous invite beaucoup à venir à ce concert qui aura lieu à partir de 21h au temple, et l'entrée est de 10 euros. C'est Fabien Aubé, naturellement, qui en assure la direction. Vendredi, non, il n'y a rien. C'est samedi, on passe à samedi matin. Et c'est le pasteur Gilles Castelnau qui assure le cours d'hébreu biblique pour les tout nouveaux. La découverte, c'est de 10h à 11h et c'est salle Verne. Dimanche prochain, c'est le pasteur Jean-Pierre Rive qui présidera le culte et l'accompagnement musical au buffet d'orgue sera encore exécuté par Sarah Kim. L'après-midi, vous pourrez aller découvrir une œuvre au musée du Louvre avec Laurence Tardy après avoir pris un pique-nique en commun dans la grande sacristie. Voilà, je vous souhaite à tous un excellent dimanche. C'est maintenant le moment de l'offrande et on vous remercie à l'avance de votre générosité. Ah, il y a...
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous représentons aujourd'hui, mon amie Élise et moi, la branche des aînés de l'oratoire. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous avons pour projet de partir cet été au Togo pour un projet humanitaire, pour apporter du coup une aide humaine et matérielle à la seule clinique qui soigne les cancers des enfants au Togo. Du coup, on va vous tenir au courant de l'avancée de notre projet. Aujourd'hui, nous allons réserver les billets d'avion. Et donc, nous appelons toujours à travailler pour pouvoir financer notre projet. Donc, si vous avez des services, babysitting, organisation d'anniversaire, déménagement, nous vous serions très reconnaissants de faire appel à nous. Je vous remercie et bon dimanche.
Je vous invite à la prière. Seigneur, ce matin, nous voulons te prier pour tous ceux qui sont persécutés pour leur foi à travers le monde. Qu'ils soient chrétiens ou de toute autre religion, permets, Seigneur, qu'ils ne désespèrent pas et que dans leur combat pour la justice, la probité, ils soient encouragés par des paroles de salut comme celles que nous avons reçues ce matin dans les Béatitudes. Sois celui qui vient choyer ceux qui ont faim et soif de justice, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui ont le sentiment d'être méprisés parce qu'ils font le bien. Donne, Seigneur, des paroles qui les détrompent à ces gens qui sans cesse recherchent le bien dans leur vie, avec le sentiment parfois qu'ils sont les oubliés de tous ces systèmes qui ignorent cette volonté secrète, intime, de vouloir un autre monde. Permet que nous ne soyons pas de ceux qui les traitent de naïfs. Permet que nous soyons avec eux dans ce combat pour le bien. Permet que nous aussi, nous ayons le courage parfois d'être simplement gentils. Ce mot qui est devenu péjoratif dans notre civilisation. Ce mot qui oublie à quel point aimer les autres, c'est les faire vivre. Nous te prions, Seigneur, pour nos enfants, pour leur éducation, pour que nous soyons ceux qui ancrent leur maison, qui la fondent dans le rocher, dans quelque chose de solide qui les fasse grandir et qui leur permette de vivre selon tes commandements tout au long de leur vie. Permets, Seigneur, que nous soyons de ceux-là, de ces adultes qui soient là pour eux, avec le souci de leur vie future. Permets que nous soyons auprès d'eux comme des adultes simples, responsables, entiers et à l'écoute de ce qu'ils veulent pour leur propre vie. Aidons-les à faire leur choix futur. Ensemble, nous te disons cette parole que des enfants disent à leur père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, cette halte se termine, mais vous avez encore beaucoup à apporter dans le monde qui nous entoure. Vous êtes les artisans de paix que le Seigneur a appelés. Vous êtes ceux qui viennent recueillir sa parole pour la porter ailleurs. Alors, allez, frères et sœurs, et soyez vous aussi appelés Makarioi. Dieu vous bénit et vous garde. Recevons cette bénédiction maintenant. Le Seigneur de toute grâce nous bénit et nous garde. Amen.